Donc, je vais vous présenter des éléments d'un modèle théorique, la théorie anthropologique du didactique. Alors, des éléments de ce modèle, c'est des éléments qui permettent de modéliser l'activité humaine, quelle qu'elle soit, et on l'utilise en didactique des mathématiques pour modéliser l'activité mathématique. On l'utilisera cet après-midi dans les travaux pratique sur ce matériel-là. C'est un modèle qui permet de décrire une partie de la réalité que l'on peut observer lorsqu'il y a une activité mathématique. Comme tout modèle, ce n'est pas exhaustif, ça ne décrit qu'une partie de l'activité, mais ça permet, c'est une modélisation qui permet de se poser des questions sur ces pratiques, se poser des questions de façon à pouvoir les évaluer et éventuellement les développer. Alors, de façon à avoir un matériel pour pouvoir m'y référer, pour introduire les notions que je vais introduire, je vais vous faire le récit d'une petite fiction qui, vous verrez tout de suite, n'a rien d'une réalité, qui est la suivante. On va imaginer que l'on rentre dans une école primaire au moment de la récréation et sur le tableau, on voit les traces d'un enseignement qui a été fait avant la récréation. Dans la première classe, on trouve une liste d'additions, 13 plus 13 égale 26, 26 plus 13 égale 39, etc., jusqu'à 156 plus 13 égale 169. Ensuite, 162 moins 156 égale 6. Et la conclusion, chaque enfant recevra 12 bonbons, il en restera 6. Dans la seconde classe, vous voyez que c'est tout à fait fictif, on trouve un tableau avec sur la première ligne les 13 premiers entiers et sur la seconde ligne les multiples de 13 successifs, 13, 26, etc. jusqu'à 169. On retrouve l'avant-dernière ligne que l'on trouvait dans la classe précédente et la même conclusion. Dans la troisième classe, on voit une division avec potence de 162 par 13 avec 12 comme quotient et 6 comme reste. On trouve la relation typique de la division euclidienne, 162 égale 12 multiplié par 13 plus 6, et la même conclusion que précédemment. Dans la dernière classe, c'est la classe maternelle, c'est la grande section de maternelle. Les enfants sont déjà sortis, ils sont de nouveau dans la classe. Et on voit les enfants devant un gros tas de bonbons. La maîtresse nous dit il y en a 162, nombre que ces enfants ne connaissent pas. Et je leur ai demandé de savoir combien les 13 enfants de la section auront au plus de bonbons si on en donne la même chose à chacun et combien il en restera pour la maîtresse. Alors, si je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner dans ces différentes classes, j'imagine que votre connaissance des mathématiques vous permettra de répondre. On est en train d'enseigner le calcul du quotient et du reste dans la division de deux entiers, de l'entier 162 par l'entier 13. Et la question se pose immédiatement de savoir, division euclidienne, mais qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? Est-ce qu'on la rencontre, cette division euclidienne, dans la première classe? Est-ce qu'on la rencontre dans la deuxième ou dans la troisième? Est-ce qu'on la rencontre dans la classe maternelle? Est-ce qu'on la rencontre plus sûrement lorsque, au collège, on annonce que la division d'un entier A par un entier B, c'est l'entier P, c'est le couple d'entiers P et Q, tel que A égale BQ plus R, avec R qui vérifie les propriétés que vous connaissez? Est-ce qu'il faut attendre de la rencontrer au niveau de l'université lorsqu'on en fait la division euclidienne de deux polynômes pour avoir une vision complète de la division euclidienne? En fait, la division euclidienne en soi, on ne la rencontre jamais, mais on la rencontre insérée dans des pratiques, pratiques que, dont on voit les traces dans les différentes classes que j'ai évoquées tout à l'heure, pratiques dont on voit la trace lorsque on donne une définition, c'est une définition, une pratique, au niveau du collège, pratique, nouvelle pratique avec de nouveaux objets mathématiques au niveau de l'université puisqu'il s'agit de polynômes. Donc c'est la division euclidienne n'apparaît que insérée dans des pratiques et insérée dans des pratiques qui mettent en jeu d'autres objets mathématiques. L'addition au niveau de la première classe, la multiplication et bien d'autres choses, une présentation qui est très particulière dans la deuxième classe, donc des problèmes d'organisation spatiale des données, même chose dans la troisième classe, des problèmes de dénombrement sûrement au niveau de la classe maternelle, puisque, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais vous voyez tout de suite apparaître les problèmes de dénombrement en classe maternelle. Donc, enseigner la division euclidienne, c'est faire un choix parmi toutes ces pratiques, et on ne peut pas être exhaustif en ce qui concerne les pratiques qui mettent, où on rencontre la division euclidienne. On ne saurait être exhaustif dans ce domaine-là, mais parmi toutes ces pratiques où apparaît la division euclidienne, enseigner la division euclidienne, c'est faire un choix d'une de ces pratiques, ainsi qu'un choix des objets liés à la pratique choisie. Enseigner la division euclidienne, c'est organiser le choix des objets et des pratiques qui permettent la rencontre, puis l'étude de cette notion. Et ce que l'on nomme l'enseignement de la division euclidienne constitue un choix de transposition d'un savoir qui est dit didactique, puisqu'on a comme intention d'enseigner, on a l'intention d'enseigner l'objet, mais on a l'intention d'enseigner l'objet dans une institution donnée. Ce n'est pas transposable d'une institution à une autre. Vous voyez tout de suite que le problème n'est pas propre aux notions mathématiques, c'est propre à toutes les connaissances humaines, à tous les savoirs humains. Si je vous dis qu'est-ce que c'est que savoir conduire une voiture, vous imaginez tout de suite que ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il s'agit d'une pratique quotidienne, lorsqu'il s'agit d'être ambulancier ou lorsqu'il s'agit d'être pilote de Formule 1 dans l'équipe Lotus ou dans l'équipe Mercedes. Qu'est-ce que c'est que savoir skier ? C'est la même chose. Si vous êtes sauveteur en montagne ou si vous faites du ski le dimanche ou si vous faites partie de l'équipe de France de ski, ce n'est pas du tout la même chose que savoir skier si vous faites une pratique quotidienne. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est que savoir dénombrer une collection. Dans le groupe premier degré, on s'est posé, enfin, on tourne beaucoup autour du problème du dénombrement et effectivement, tout dépend de l'institution. Institution pris au sens large, institution, cette classe, à ce moment-là du développement de la réflexion ou de l'enquête sur le dénombrement. Qu'est-ce que c'est que savoir soustraire deux entiers ? Cet après-midi, on va travailler sur des séquences de soustraction. Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose à un endroit et à un autre endroit. Ce qui fait que corrélativement, un enseignant va se poser la question de qu'est-ce que c'est connaître la division euclidienne, qu'est-ce que c'est connaître le dénombrement, etc. Et ce que l'on dit dans la théorie anthropologique du didactique, c'est que dans des conditions données, par exemple, en grande section, à ce moment-là de l'année, en CE1, à ce moment-là de l'année, avec cette classe-là, en CE2, etc., à l'université, connaître la division euclidienne, c'est au moins savoir accomplir un certain type de tâche avec une technique reconnue comme pertinente dans l'institution donnée. Alors, par exemple, si je reviens aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, dans la première classe, on cherche, connaissant le type de tâche auquel l'on est en train de travailler, que l'on est en train d'étudier, c'est des tâches du type connaissant le nombre d'éléments d'une collection, connaissant un tout, une quantité, connaissant le nombre de parts que l'on veut effectuer, combien, quelle sera la valeur, la quantité d'éléments de chaque part et combien il en restera après un partage équitable, puisque le terme partage équitable est souvent entendu par même quantité pour chacune et le maximum de quantité pour chaque part. C'est ce type de tâche auquel on peut considérer que l'on s'attache, que l'on s'attelle dans les trois classes de classe primaire et dans la classe de maternelle. Les techniques utilisées sont totalement différentes. La technique qui est étudiée pour accomplir ce type de tâche dans la première classe est une technique qui est une technique basée sur l'addition réitérée. Elle pourrait l'être sur la soustraction réitérée. On est dans une classe sans doute de début de CE1, début d'année de CE1 ou fin de CP, mais plutôt début d'année de CE1. Dans la deuxième classe, bien la multiplication a été faite, disons que c'est 2. Dans la troisième classe, on est certainement en cycle 3. Quant à la dernière, eh bien, les opérations ne sont pas disponibles et on est dans une situation où les nombres sont utilisés uniquement pour faire des dénombrements et pas pour calculer. Donc, enseigner et savoir une notion mathématique, c'est savoir accomplir ou enseigner à l'apprenti, savoir accomplir un certain type de tâche avec une certaine technique. Ceci dépendant de l'institution dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour pouvoir organiser un enseignement. Pour pouvoir organiser un enseignant, il va falloir organiser le contact des élèves avec le type de tâche. Et le contact, il va falloir que les élèves puissent soit élaborer, soit comprendre la technique que l'on veut leur voir apprendre pour accomplir la tâche en question. Alors, je vais vous donner un autre exemple vous permettre de mieux saisir ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous donner une technique que certains connaissent peut-être pour calculer 19 multiplié par 34. Alors, pour calculer 19 multiplié par 34, je divise 19 par 2. 19, ça fait divisé par 2, ça fait 9, il reste 1. Je multiplie 34 par 2. 34 multiplié par 2, ça fait 68. Mais comme 9 est impair, je ne barre pas 68. Je continue. 9, je le divise par 2. 9 divisé par 2, ça fait 4. Il reste 1. 4, c'est pair, je le barre. 68 multiplié par 2, ça fait 136. 136, je le barre. 4 divisé par 2, ça fait 2, c'est pair, je le barre. Et 136 multiplié par 2, ça fait 272, je le barre. 2 divisé par 2, ça fait 1, c'est impair, je ne le barre pas. 272 multiplié par 2, ça fait 544. Et maintenant, je fais la somme des différents nombres non barrés. 34 plus 68 plus 544. Ça fait 646 et j'affirme que c'est le produit de 19 par 34. Vous pouvez vérifier avec une calculatrice, c'est juste. Je pense que si la description d'une pratique que je viens de vous faire ne vous suffira pas si vous ne connaissez pas du tout cette technique, pour comprendre cette technique, c'est-à-dire pour pouvoir vous l'approprier et pouvoir la reproduire sur un autre exemple. Pour pouvoir être persuadé que la technique que je viens de vous décrire est pertinente pour accomplir la tâche qui consiste à faire le produit de deux nombres entiers. Donc il va falloir que je vous apporte d'autres informations pour que vous puissiez être persuadé que c'est pertinent. Très rapidement, comme je pense que vous connaissez des mathématiques un minimum, et en particulier vous savez tous que la multiplication est distributive sur l'addition, je vais vous donner très rapidement une explication. Pour pouvoir accepter cette technique comme pertinente pour calculer le produit de deux nombres, de deux nombres entiers, et ce que je viens de faire là, c'est que je viens de tenir un discours permettant de justifier cette technique, discours que j'ai fait suffisamment, enfin de façon lapidaire, parce que le public auquel je m'adresse, je fais l'hypothèse que vous avez des connaissances, des pratiques calculatoires qui sont suffisamment élaborées pour pouvoir vous suffire de cet apport-là pour être persuadé que c'est bien une technique pertinente pour calculer le produit de deux entiers. Alors, cette technique-là est une technique qui est enseignée dans un certain nombre de pays de langue slave et qui, dans des écoles primaires, est la technique qui est utilisée pour calculer le produit de deux nombres. Bon. En France, on n'a aucune trace de ceci au niveau des pratiques de l'école primaire et même au niveau des pratiques en général usuellement utilisées. Ce que je viens de faire ici, c'est je viens de tenir un discours technologique, un discours sur la technique. C'est ce que l'on appelle la technologie permettant de décrire, d'une part, de justifier la pertinence de la technique pour accomplir une tâche donnée. Alors, le modèle théorique que je voulais, enfin la partie de modèle théorique que je voulais vous introduire dans une première partie de mon intervention est constitué de 4 T. 4 T, type de tâche, je vous en ai donné des exemples, technique pour accomplir la tâche, deuxième T, technologie, troisième T, pour pouvoir justifier la pertinence, décrire et justifier la pertinence de la technologie pour accomplir les types de tâches que l'on est en train d'étudier. Et enfin, la théorie ici, ça serait pour la division euclidienne, théorie de l'arithmétique et plus généralement la théorie des ensembles, qui permet de justifier tout le matériel technologique et la technique pour pouvoir accomplir le type de tâche auquel on s'attache. Dans ce modèle, en général, on distingue deux parties. D'une part, le type de tâche et les techniques. Et la technique, alors je dis les techniques ou la technique parce que dans certaines institutions, il peut y avoir plusieurs techniques pour accomplir une même tâche ou même type de tâche. En général, il y en a une reconnue dans une institution donnée, mais il peut y en avoir plusieurs. Et ce groupe type de tâche et technique constitue ce que l'on appelle le savoir-faire. Les deux autres T, technologie et théorie, constituent ce que l'on appelle le pôle du savoir. Alors, si je reviens à la fiction, là, que j'ai évoquée tout à l'heure, on peut se poser la question de savoir quel type de discours, quels sont les éléments technologiques sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir permettre aux élèves de considérer que la technique qu'on est en train d'étudier avec eux est pertinente pour accomplir, alors ici c'est une tâche d'un certain type, pour accomplir la tâche à laquelle ils sont confrontés. Alors si on est dans la première classe, il y a très certainement des discours du type du discours qui sont liés à la genèse, à l'étude de l'addition. Et puis, il y a aussi très certainement des évocations de ce qui s'est fait lorsqu'on était en grande section de maternelle ou lorsqu'on était en début de CP et où on fait du partage effectif. Le partage effectif permet de mettre en place des choses du type « je donne un bonbon à chacun, donc j'ai donné 13 bonbons ». Ensuite, je donne encore un autre bonbon à chacun. J'ai donc donné 13 et encore 13. Et d'ailleurs, assez naturellement, on pourrait construire à partir de ça plutôt une technique basée sur les soustractions réitérées. J'ai 162 bonbons. J'ai donné, lors du premier passage, 13 bonbons. Donc, j'ai enlevé 13 bonbons au tas de bonbons. Enlever 13 bonbons, c'est soustraire, 13 à 162, etc. Donc, les arguments technologiques sur lesquels on va s'appuyer pour introduire cette technique sont à la fois des arguments qui ont à voir avec l'étude qui a été faite, soit de l'addition, soit de la soustraction, et des arguments qui s'appuient sur des pratiques et sur des techniques qui ont été étudiées au niveau de l'école, enfin en grande section de maternelle ou au niveau du CP. Dans la deuxième classe, c'est tout ce qui a à faire avec la construction de la multiplication qui va pouvoir être sollicité. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails concernant la division avec potence. Il y a plusieurs solutions, plusieurs discours technologiques différents, mais il y aura très certainement des choses qui auront à voir avec la décomposition, l'écriture en base 10 de 162. 162, c'est 16 dizaines et 2 unités. Je veux faire 13 parts identiques avec 16 dizaines et 10 unités. Je vais en prendre, si j'ai 16 dizaines, je vais déjà pouvoir donner une dizaine à chacun. Ça peut être des discours de ce type-là, mais qui s'appuieront effectivement sur des savoirs qui ont été élaborés précédemment. Donc, on a, suivant l'institution dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire le public, à un moment donné, on a des éléments technologiques qui sont de nature différente et qui vont convaincre ou pas convaincre le public avec lequel on travaille. Maintenant, on est un peu plus armé pour répondre à la question que je posais au début. Que souhaite-t-on enseigner ? Ben, pour répondre à cette question, et vous voyez que c'est une réponse qui décrit une situation d'enseignement de façon très parcellaire, mais qui néanmoins permet de fonctionner et de se poser des questions. Donc, pour répondre à cette question, on définira quel type de tâche on veut que les élèves apprennent à accomplir, avec quelle technique, une ou plusieurs, sur quels arguments technologiques on va pouvoir s'appuyer. Et éventuellement, je dis éventuellement, parce qu'en général, c'est une question qu'on ne se pose pas, parce qu'elle a été réglée en aval de l'enseignement, sur quelle théorie, quelle est la théorie qui légitime le tout. À partir de là, ça peut paraître, je dirais, dérisoire, mais on peut se poser une foule de questions. On peut se poser une foule de questions pour, je dirais, évaluer l'organisation mathématique que l'on est en train d'enseigner. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'avais mis en titre. Un type de tâche, une technique ou des techniques, des éléments technologiques et la théorie, c'est ce que l'on appelle une organisation mathématique. Donc, évaluer une organisation mathématique qui est enseignée, ça peut se faire en se posant des questions du type: est-ce que ce travail est conforme à ce qui est attendu au niveau concerné ? Je me trouve dans une institution, cette institution a des règles de fonctionnement. Est-ce que je suis Est-ce que je respecte les normes de fonctionnement, les instructions officielles, lorsqu'on les lit d'une certaine façon, enfin lorsqu'on les lit en y cherchant effectivement des types de tâches, des techniques et des éléments technologiques, donne ces informations-là. Est-ce que la technique envisagée est adaptée à la tâche à accomplir? Si vous avez à partager équitablement 1230 objets entre 20 personnes, c'est très certainement pas un partage effectif que vous allez faire, ni même des additions réitérées. La division avec potence est certainement beaucoup plus adaptée à ce type de tâche. Est-ce que les arguments pour élaborer et justifier la technique dont l'étude est visée sont accessibles aux élèves? Et ça nécessite un travail, je dirais presque d'enquête. Quels sont ces éléments technologiques sur lesquels on va s'appuyer? Est-ce que les élèves, est-ce qu'ils sont familiers aux élèves? Est-ce qu'ils les maîtrisent suffisamment pour pouvoir éventuellement élaborer eux-mêmes la technique, voire comprendre, accepter lorsque la technique est élaborée collectivement ou présentée par le maître, comprendre pourquoi elle est adaptée au type de tâches sur lesquelles on est en train de travailler. En ce qui concerne l'organisation mathématique, je m'arrêterai là aujourd'hui, ce matin, parce que cet après-midi, ce qu'on vous proposera, c'est justement de faire déterminer des organisations mathématiques précises à partir de documents qu'on mettra à votre disposition. Alors, avant de passer à la deuxième partie de mon intervention, je voudrais vous demander si vous avez des questions, des précisions à demander. Avec la notion d'organisation didactique, et lorsqu'on se pose la question de décrire, toujours, je dis de façon non exhaustive, la pratique d'un enseignement, pour chaque organisation mathématique, il va falloir étudier son enseignement, puisque pour chaque organisation mathématique à étudier, il est de la responsabilité de l'enseignant de créer et mettre en place les conditions visant à favoriser l'étude de cette organisation. Et le problème se pose de décrire ces conditions d'étude d'une organisation mathématique. Alors là aussi, je vais vous présenter des éléments théoriques pour pouvoir décrire la mise en place des conditions d'étude d'une organisation mathématique. C'est un modèle qui est sommaire, comme le précédent, il a essentiellement l'intérêt, comme tous les modèles, de permettre de faire émerger des questions concernant les conditions d'études qui sont mises en place et qui sont étudiées. Alors, l'option qui est prise en TAD, c'est qu'il y a un certain nombre de moments que l'on peut repérer dans l'étude d'une organisation mathématique et qui, en fait, se retrouvent dans toutes les situations où l'on souhaite enseigner quelque chose, enseigner une organisation mathématique. Ces moments ne sont pas, je vais les repérer par des noms, je vais vous les présenter de façon chronologique, de façon les uns après les autres, parce que je ne peux pas faire autrement que de les présenter les uns après les autres. Mais ce qui est important, c'est la fonction de ces moments dans l'étude qui est poursuivie, dans l'étude de l'organisation mathématique qui est poursuivie. Et vous allez voir que la définition, la fonction de ces moments est très liée à ce que j'ai défini comme étant une organisation mathématique. Quels que soient les choix didactiques que vous fassiez, il y a toujours un moment où les élèves vont rencontrer pour la première fois un type de tâche, en général à travers le travail sur une tâche du type donné, un type de tâche problématique dont la résolution est précisément l'organisation mathématique en jeu de l'étude que le professeur se donne pour mission d'enseigner. Alors, un premier moment de rencontre, ça peut se décliner de différentes façons. Repérer le premier moment, dire que c'est le premier moment, ça ne dit rien sur la façon dont on met en œuvre cette première rencontre. Cette première rencontre, elle peut être une rencontre, je dirais, où l'on évoque une situation. Par exemple, tout à l'heure, à propos de la technique de la multiplication, dite multiplication à la russe, pour certains d'entre vous, ça a été le moment de première rencontre avec cette technique pour résoudre une tâche donnée du type produit de deux nombres entiers. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai dit que dans d'autres pays, on faisait comme ça pour calculer la multiplication de deux nombres, le produit de deux nombres entiers. Donc j'ai évoqué des pratiques qui pouvaient avoir lieu dans d'autres lieux. Si le moment de première rencontre se passe ainsi, il faudra, pour étudier une organisation mathématique associée, qu'il y ait d'autres moments pour que la prise en main et que le contact effectif, là il n'y a pas de contact effectif, si ce n'est en écoutant ce que je dis, pour que le contact effectif se fasse à travers des activités. C'est la même chose pour la présentation que je vous fais de la notion d'organisation mathématique et d'organisation didactique. De façon très différente, une première rencontre peut être une première rencontre où les élèves sont mis face à une tâche problématique et où l'organisation mathématique va leur être déléguée et ils vont s'attaquer à la tâche d'accomplir ce qu'on leur demande d'accomplir et de construire la technique et les éléments technologiques associés pour pouvoir accomplir la tâche en question. Donc vous avez, par exemple, on se souvient la situation d'école maternelle, très certainement, dans de nombreuses situations, peut-être pas avec 162 bonbons, c'est beaucoup, mais avec un peu moins de bonbons, on peut mettre les élèves face à cette tâche. Et après un certain nombre d'essais qui sont plus ou moins fructueux, en particulier très certainement que la répartition, la distribution d'un bonbon à chaque enfant nécessitera la mise en œuvre d'un certain nombre de matériaux, peut-être, je ne sais pas moi, des boîtes, 13 boîtes, une pour chaque enfant. Et puis, il ne suffit pas d'avoir 13 boîtes n'importe comment, les aligner de façon à ce qu'on sache où on en est, à qui on a donné un bonbon. Lorsqu'on donne le premier bonbon, il n'y a pas de souci. On regarde s'il y en a dans chaque boîte. Mais dès qu'il y en a 3 ou 4, on ne sait plus à qui on en a donné et pas donné. Donc, il va falloir organiser, construire une technique qui verra la justification des gestes qui accompagnent cette technique dans un certain nombre de choses qui sont à la fois produites par la situation qu'ils sont en train de vivre et par les situations qu'ils ont déjà vécues. Quand on veut dénombrer quelque chose, eh ben, il faut organiser les objets parce que sinon, ben, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qu'on a compté, ce qu'on n'a pas compté, etc. Donc on peut imaginer que cette situation-là puisse être traitée, enfin soit une première rencontre, et puisse être traitée en déléguant aux élèves la responsabilité de construire à la fois la technique avec un certain nombre d'étapes et les éléments technologiques associés. Une des questions je dirais cruciale, c'est que pour l'enseignant, c'est de trouver une situation didactique permettant une rencontre effective des élèves avec une ou des tâches génératrices de l'organisation mathématique à enseigner. C'est quelque chose qui est central, de façon à ce qu'il y ait effectivement enseignement, qu'il y ait effectivement appropriation de l'organisation mathématique par les élèves. Le deuxième moment, alors j'insiste pas plus parce que je crois que depuis le début du stage et jusqu'à la fin du stage, c'est des préoccupations qui sont présentes dans les interventions des uns et des autres. Le deuxième moment que l'on peut repérer, c'est le moment d'élaboration de la technique et d'exploration du type de tâche associée. C'est-à-dire, lorsqu'une tâche est relativement familière, rapidement, on peut, en agissant sur un certain nombre de variables, rapidement on peut la rendre problématique et ça peut conduire à élaborer une nouvelle technique pour l'accomplir. Il se peut que ce soit au moment de la première rencontre que la technique soit décrite ou que la technique commence à être élaborée. Nécessité de construire dès la première rencontre pour essayer d'accomplir la tâche du type de celles qui sont étudiées, la technique va commencer à être accomplie. Donc ce moment-là, il peut être inséré effectivement dans le moment de première rencontre ou au moins débuté dans le moment de première rencontre. C'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose de chronologique que je vous présente. D'autre part, il est nécessaire, on étudie une organisation mathématique, une organisation praxéologique, étudie un type de tâche et non pas une tâche. Donc il est nécessaire, c'est pas l'étude d'un problème particulier, du problème du partage de 162 bonbons entre 13 enfants que l'on est en train d'étudier, mais on est en train d'étudier un certain type de tâche. Et il est nécessaire qu'à un moment ou un autre, il y ait possibilité d'explorer le type de tâche, d'explorer les autres tâches du même type que la technique peut permettre de résoudre. Et c'est très souvent à travers l'exploration des tâches du même type que l'on va affiner la technique, que l'on va voir des aspects de la technique que l'on n'avait pas nécessairement vus. C'est là que dans les techniques opératoires, on voit apparaître des zéros, on voit apparaître des choses qui n'étaient pas prévues au départ, et on va avoir un certain nombre d'éléments technologiques qui vont apparaître. Alors, la technique, elle va être élaborée ou elle va être présentée en s'appuyant sur des éléments technologiques. Se justifier dans le cadre d'une théorie, mais enfin la théorie, on peut un peu la laisser de côté. Il y aura des éléments technologiques qui vont apparaître à différents moments au niveau chronologique, mais il faudra essayer d'introduire ces éléments technologiques. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté la technique de la multiplication à la russe, j'ai commencé par décrire la technique et simplement en la décrivant, je vous donnais déjà des éléments technologiques, barré, pas barré, etc., nombre pair, nombre, etc. Je ne me suis pas contentée, et je ne l'ai d'ailleurs pas fait du tout, je ne me suis pas contentée de faire fonctionner sous vos yeux la technique. J'ai tenu déjà en vous montrant ce que je vous ai montré dans un premier temps, j'ai tenu déjà un discours sur la technique. Et puis dans un second temps, j'ai tenu un discours justifiant la technique. Donc description de la technique, justification de la technique, tout ça ce sont des éléments technologiques que l'on va pouvoir repérer à différents moments dans la conduite de l'étude. Le travail accompli lors du moment de travail de la technique, C'est un travail qui permet de rendre la technique la plus fiable possible. Là aussi, ça peut être à l'occasion de la recherche des différents types de des différentes tâches appartenant au même type de tâches que l'on va commencer un travail de la technique. Ça peut être à un moment précis, moment d'entraînement, où on va essayer de se mettre en main la technique dont l'étude est visée. Ça peut être un moment spécifique, mais il est nécessaire que la technique soit utilisée sur un éventail suffisant de tâches pour qu'on puisse acquérir une certaine maîtrise dans son utilisation. Mais toujours est-il que ce moment d'entraînement s'appelle moment de travail de la technique. Enfin, dans toute l'étude qui a été faite, quelle que soit la façon dont elle a été faite, il y a un certain nombre de choses qui ont été, un certain nombre d'autres objets mathématiques ou pas mathématiques qui ont été convoqués pour pouvoir permettre l'étude. Et dans tout ça, il faut essayer de retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire l'objet, le type de tâche et la technique associée qui est essentielle à retenir et qui était l'objet de l'étude que l'on fait ce jour-là ou ces jours-là. C'est ce que l'on appelle le moment d'institutionnalisation. Enfin, dans une visée didactique, il y a un autre moment que l'on peut éventuellement repérer, c'est le moment de l'évaluation, pour savoir si le rapport personnel des élèves est conforme au rapport que l'on souhaite voir atteindre, c'est-à-dire la norme étant fixée au cours de l'institutionnalisation, on vérifie que ce rapport personnel est conforme au rapport de chaque élève à cette organisation mathématique. Analyser en termes de moments, c'est décrire la séquence que l'on veut analyser en termes de moments, effectivement, et surtout se poser la question en termes non pas de moments dissociés les uns des autres, mais par rapport à sa fonction, ça je l'ai déjà dit, c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Ça peut paraître, comme je le disais au début, quelque chose de relativement succinct comme description. Néanmoins, ça permet, si on s'y adonne, de se poser un certain nombre de questions. Lorsqu'on analyse une séquence que l'on observe ou que l'on voit décrire quelque part, cet après-midi on va travailler sur des séquences décrites dans des ouvrages scolaires et dans le livre du maître associé, on peut se poser la question de savoir quels sont les moments qui sont présents, quels sont ceux qui sont absents. Et vous verrez qu'il y a très souvent des moments qui sont absents. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur. Ça veut dire simplement qu'ils sont absents et qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent qu'ils soient absents? Est-ce que ces moments, par exemple, moment d'évaluation, est-ce qu'il va être trouvé ailleurs dans une autre leçon, dans un autre moment? Ou est-ce que ça sera, si le maître juge nécessaire qu'il y ait un travail d'entraînement de la technique important, est-ce qu'il va falloir qu'il rajoute des exercices? Est-ce qu'il va falloir qu'il fasse des choses? Etc. On va pouvoir se poser la question, un certain nombre de questions concernant la présence ou l'absence de moments. La réalisation de chacun des moments permet-elle de remplir la fonction de celui-ci ? Vous avez un certain nombre de séquences didactiques où on semble rencontrer un type de tâche et où, en fait, le moment de première rencontre n'est pas le moment de première rencontre avec ce type de tâche. On a évoqué dans le groupe premier degré des leçons concernant la multiplication, ou c'est peut-être ici, je ne sais plus, concernant la multiplication, où, en fait, on annonce la rencontre avec une nouvelle opération, le produit de deux entiers, et où les premières activités et même les activités qui sont essentielles dans la leçon en question sont des activités d'énumération de collections, mise en place d'une technique d'énumération de collections, collection d'objets où chaque objet est défini par deux critères qui varient, un critère prenant 4 ou 5 valeurs et l'autre critère prenant 4 ou 5 valeurs. Technique d'énumération qui débouche, enfin qui en fait est une technique avec un tableau à double entrée. Donc on ne travaille pas là le produit de deux entiers, on travaille autre chose. Ce qui fait que on arrive en se posant la question de savoir quelle est l'organisation mathématique que l'on rencontre au cours des activités essentielles de cette leçon, à trouver un autre sujet, une autre organisation mathématique que celle qui est annoncée. Enfin, il y a une question qui est aussi importante. Comme je vous l'ai dit, les différents moments peuvent se... Je l'ai un peu explicité pour le moment de première rencontre, mais tous les moments peuvent se décliner de différentes façons. Et dans ces différentes façons, il y a une question fondamentale qui est de savoir quel est le travail respectif de l'enseignant et des élèves. Est-ce que les élèves, alors, non pas sont actifs, c'est-à-dire agissent, écrivent, etc., mais est-ce qu'ils participent à ce qui est la fonction du moment en question ? Est-ce qu'ils font avancer le travail par rapport à cette fonction ? Ou est-ce que c'est le maître qui fait seul le travail? Donc tout ça sont ces quelques questions, j'en ai cité trois, mais il y en a un certain nombre d'autres que l'on peut se poser, à partir de la description en termes de moment d'une organisation didactique. Alors c'est tout ce que je dirais pour le moment, parce que j'imagine que vous avez peut-être des questions à poser.